Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, lors de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi de 11 à 12h et mercredi de 10h, lors de Kinshasa.
J'ai reçu totalement ce qui
s'est passé. Voici au passage, je pense qu'on peut combiner les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs de ce mercredi 13 juillet 2011 qui se penche sur la formation professionnelle et technique dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Vous vous rappellerez que l'annuaire 2010-2011 de l'enseignement technique et professionnel en République démocratique du Congo a été rendu public au mois de février dernier à Kinshasa par le projet d'appui à l'enseignement technique et à la formation professionnelle de la coopération technique belge. L'objectif visé est l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique et la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Ce répertoire fait un rapport avec le marché d'emploi en alliant opportunités socio-économiques des différentes provinces et filières prioritaires. Le document de la CTB fait voir le déséquilibre entre l'enseignement et l'organisation des emplois en RDC et apporte des conseils en vue d'une éventuelle réorganisation des structures d'enseignement adaptées aux besoins du pays. Cet annuaire a été publié après un constat du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et de ses partenaires. L'éducation technique et professionnelle est généralement traitée en parents pauvres du système éducatif congolais. Et aussi, au cours de l'année scolaire passée, le ministère de l'EPC a mené des campagnes de sensibilisation sur l'instruction dans ce secteur de l'enseignement technique et professionnel. Quelle est la situation de cet enseignement dans votre milieu et que faut-il faire pour promouvoir l'enseignement technique et professionnel? À partir de l'année scolaire prochaine, nous avons invité pour vous au téléphone M. Arthur Tereyangamou Zabousou, vice-ministre de l'EPC chargé de l'enseignement professionnel. Kiki Boutou est à la réalisation de cette émission, mise en onde par Jean-Noël Mokondo, Nicole Ndiaka, la supervise, Piero et la Mézi, vous la présente, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, par internet, ca@radiookapi.net.
Avant de pouvoir aborder les sujets du jour, je m'en vais dire aux auditeurs, à l'ensemble des auditeurs et aussi surtout ceux de la province orientale que compte tenu de la catastrophe aérienne qui a frappé la RDC est survenue en fin de semaine dernière à l'aéroport de Bangoukati-Sangani en province orientale et en concertation avec le gouvernement provincial de la province orientale. L'émission Parole aux auditeurs spéciale consacrée à la gestion de la province orientale qui devait avoir lieu en principe aujourd'hui, mercredi 13 juillet 2011, est renvoyée au mercredi prochain, ça sera le 20 juillet. Et alors, tous les auditeurs qui nous ont déjà contactés, nous gardons vos noms. Ceux qui ont déjà envoyé les messages sont gardés pour le mercredi 20 juillet prochain, la date à laquelle va passer l'émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée à la gestion de la province orientale. Et aujourd'hui, nous faisons le point avec vous sur l'enseignement technique et professionnel. À la clôture de cette année scolaire 2010-2011, la campagne de sensibilisation a été menée. Et qu'en est-il là, de résultats sur terrain et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'année scolaire 2011-2012 par rapport à la promotion et l'inscription dans l'enseignement technique? Monsieur Arthur Cédéa, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Nous sommes très contents de vous avoir encore une fois dans cette émission pour faire le point sur le secteur de l'enseignement professionnel. Mais nous allons vous demander de pouvoir arrêter votre poste récepteur parce qu'il fait retour ici au studio et vous allez suivre l'émission, tous les débats dans les téléphones, en système de conférence. Comme ça, ça va vous permettre de nous suivre directement sans passer par un retour au niveau de la radio. Je suis en train de vous remercier pour votre disponibilité dans cette émission. Pourriez-vous avoir en quelques lignes les points par rapport à ce que vous avez mené comme campagne, la publication de l'annuaire dans le secteur de l'enseignement professionnel l'année passée, avant que nous puissions penser à l'avenir pour l'année qui va commencer?
Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais d'abord présenter mes vives condoléances aux familles éprouvées par le crash qui a eu lieu dans la province orientale. La nation est touchée et particulièrement les familles concernées. Et par rapport à l'annuaire que nous avons publié en collaboration avec nos partenaires, je pense que cela est un document utile pour nous aujourd'hui pour voir et réajuster notre comportement sur terrain par rapport à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc, c'est vraiment un instrument très capital pour nous, et cet instrument-là nous permettra à coup sûr de rectifier les déséquilibres de mise en place des écoles professionnelles à travers le pays.
Et on vous a vu aussi circuler le pays pour sensibiliser et mener cette campagne d'inscription dans les filières techniques. Quels sont les résultats qu'on peut avoir obtenus quand vous regardez les déséquilibres qui a existé, comme l'a dit cet annuaire, et les efforts fournis sur terrain à ces jours? Quels sont les résultats qui ont été obtenus?
Oui, c'est vrai que nous avons commencé la sensibilisation dès que le chef de l'État lui-même avait accordé de l'importance à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et nous sommes capables aujourd'hui de dire que ça a apporté des résultats, parce que il y a maintenant 2 ans, nous avons constaté une nette augmentation des élèves qui désirent poursuivre la formation professionnelle dans notre pays. Et aussi avec la politique du ministère, nous avons estimé bon de revaloriser, donner davantage de la valeur à ce secteur-là, qui jadis qui était considéré comme un enseignement réservé aux moins intelligents, aux moins capables, à ceux qui ne peuvent pas affronter l'université. Non, nous avons encore accentué la sensibilisation par l'examen d'État au niveau de la formation professionnelle. Donc le cycle court aussi aujourd'hui, cette année, a présenté l'examen d'État, et nous pensons que ça va encore donner un coup de pouce par rapport à la sensibilisation.
Mais là, il y a aussi ce problème de moyens, vous savez, les écoles techniques, mine de rien, ça coûte cher de s'inscrire dans une école technique, parce que ça va demander que l'élève puisse payer, par exemple, les matériels didactiques, et l'élève est obligé de payer des choses supplémentaires pour charger sa formation. Comment, au niveau du ministère, vous pensez aider ces sous-secteurs, dans le sens que si les parents se découragent parce que l'enseignement technique coûte cher, il faudrait beaucoup d'argent pour se payer les matériels didactiques et tout ça. Mais quelle est la politique au niveau du ministère pour parvenir à aider effectivement les parents à ne pas se décourager en ce qui concerne les moyens et les matériels nécessaires pour pouvoir permettre aux enfants de suivre la formation?
Oui, je pense aujourd'hui que ce qui est une réalité est qu'à travers le monde, l'enseignement technique et la formation professionnelle coûte cher, parce que ça nécessite des matériels et des équipements un peu spéciaux. Donc l'enseignement ça coûte cher dans ce secteur-là. Mais ce que nous faisons au niveau du ministère, c'est d'arriver à faire comprendre aux parents l'importance de ce type de formation. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons autant de chômeurs. Mais si aujourd'hui, chacun de Congolais, diplômé, gradué, licencié, a un métier aujourd'hui, ça peut nous permettre à réduire sensiblement le taux de chômage dans notre pays. Okay. Alors, le gouvernement fait vraiment des efforts énormes pour dégager des ressources nécessaires pour le ministère en général, et nous nous organisons dedans pour dégager la part de l'enseignement technique et la formation professionnelle, pour que davantage on puisse sentir la présence. Et aussi, nous avons l'appui aujourd'hui de la Première Dame, excusez-moi de la citer, parce qu'elle s'est donnée pour la construction et la réhabilitation des écoles techniques et la formation professionnelle. Donc, ensemble avec le chef de l'État et son épouse, et le gouvernement, nous sommes en train de plus en plus de mettre un accent particulier sur ce type de formation, parce que nous savons que c'est de là que le Congo pourra réellement décoller.
Voilà, on vous garde en ligne, il est temps d'écouter aussi les auditeurs qui sont en train de nous appeler, qui voudraient bien intervenir, hein, parce que nous dégageons les pistes de solutions pour l'amélioration du sous-secteur de l'enseignement professionnel. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Appelez-nous au 081-890-6315, 081-890-6315. Mais vous pouvez également le faire, si vous avez accès à l'Internet, en nous envoyant un message électronique à l'adresse pa@radiookapi.net. Nous avons déjà un auditeur en ligne qui nous appelle Dembujimai au Kasaï oriental, je crois bien c'est Congo. Nous avons aussi Piston qui nous appelle de Walikale dans le Nord Kivu. Messieurs, vous allez avoir la parole tout juste après pour commenter avec nous ce sujet autour de l'enseignement professionnel, l'enseignement technique Congo. Gardez la ligne et Piston, nous sommes à vous dans quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Congo, vous êtes en ligne, bonjour.
C'est Congo, Kababa Pierre de Kumbujimai.
Voilà, vous êtes au Kasaï oriental. Nous parlons de la promotion de l'enseignement professionnel. D'abord, on fait le point hein, sur ce qui s'est fait déjà sur le terrain, dans votre milieu, les écoles techniques. Désolé pour Congo Pierre de Kumbujimai, on vient de le perdre. En attendant, on va à Walikale, Fiston, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot.
Est-ce qu'en Walikale, il y a des écoles techniques qui fonctionnent, comme la menuiserie, les écoles de maçons, tout ça?
Mais oui, non, si je peux le dire, les écoles techniques, par rapport, par exemple, la menuiserie et autres, ça n'est pas du tout jusque-là visible. Tout ça, on affecte par rapport au ministère de l'enseignement parce qu'on ne songe pas à affecter, n'est-ce pas, les écoles dans les lieux, par exemple à Walikale, pour, n'est-ce pas, aussi donner à l'occasion, n'est-ce pas, à cette jeunesse qui aime bien aussi être, n'est-ce pas, éduquée ou du moins être aussi de quelqu'un qui peut aussi, n'est-ce pas, défendre. Si du moins il y a des travaux sur les liens, les écoles là n'est pas opérationnelles, mais plutôt il y a d'autres écoles, par exemple commerciales et autres. Mm-hmm. Mais par rapport de ce que tu me demandes là, vraiment n'est pas visible sur le terrain. Mm-hmm. Donc c'est comme si Walikale est oublié par rapport à cette situation. Voilà, donc on envisagerait qu'il fallait que le ministère de l'enseignement professionnel puisse aussi affecter de telles activités dans les territoires de Walikale, en fait, dans ces jeunes. Et aussi, la communauté de Walikale sera aussi, n'est-ce pas, représentée si du moins il y a des emplois par rapport à cette affectation des activités, du moins, de cette école. Voilà, donc, en fait, c'est ce que je peux dire.
Voilà. Votre souci, c'est que, au niveau du ministère, hein, qu'on puisse créer des écoles techniques et professionnelles à Walikale, parce que vous n'en avez pas. Nous revenons à vous. Vous avez quelque chose à ajouter à Fiston?
Oui, nous avons d'autres choses à ajouter, c'est par rapport à ça, vous savez, il fallait que le ministère habilité, il fallait qu'il fasse, n'est-ce pas, des défenses sur le terrain, en fait, défendre de la réalité sur le terrain, pour envisager tel projet, il fallait aussi qu'il puisse venir ou affecter la commission habilitée à cette action, pour, n'est-ce pas, devoir et palper du doigt la réalité et d'installer l'école, ou du moins les institutions
d'enseignement professionnel,
professionnel voilà. Par rapport à l'envisage de...
Merci, Siston. Vous souhaitez qu'il y ait une commission, soit une descente hein, du ministère de l'EPSP à Walikale, pour faire les deux études, voir comment créer ces écoles à Walikale. Nous revenons à vous, monsieur le ministre. Il y a souvent ce qu'on observe comme un manque d'engouement pour les gens qui créent des écoles, parce qu'aujourd'hui on voit autant d'écoles sur les avenues, complexe scolaire, autant, il y en a tellement beaucoup, mais on ne sent pas cet engouement à l'ouverture de filières techniques et professionnelles au niveau des privés, par exemple, qui ont beaucoup investi actuellement dans l'enseignement. Est-ce qu'au niveau du ministère, il y a une brèche d'ouverture, de soutien de programmes pour permettre aux privés qui ont de l'initiative de pouvoir investir dans le secteur de l'enseignement professionnel et technique?
Merci beaucoup. J'ai bien suivi les préoccupations de l'auditeur, M. Fiston Walikale, et j'ai dit à Fiston ceci. si l'annuaire a été publié, on avait eu besoin de cet annuaire, c'est pour nous aider à corriger le déséquilibre qu'on avait constaté au niveau de la formation technique et professionnelle à travers le pays. Et si à Walikale, aujourd'hui, il n'y a pas ces écoles-là, chose que nous devons encore vérifier, je pense qu'avec le document-là, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir corriger ce déséquilibre-là. Bon, par rapport à votre préoccupation, le ministère, le ministre Makaire Mwangu et moi-même, nous avons pris comme décision de favoriser actuellement plus la création et l'agrément des écoles techniques et la formation professionnelle. Mmh. C'est juste aussi pour nous appuyer dans ce sens-là. Mais il faudra reconnaître que le ministère ne peut pas orienter mais ou décider à la place des promoteurs des écoles. Il appartient à ces promoteurs des écoles-là de comprendre aujourd'hui que le Congo a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour son développement. Il appartient également à ces promoteurs-là de comprendre avec nous qu'il nous faut des écoles techniques et des formations professionnelles à travers le pays pour former des main-d'œuvre qualifiées. Alors le ministère ne peut pas leur imposer quelque chose, mais à notre niveau, pour les écoles publiques de l'État, nous avons estimé bon que dorénavant, au lieu de créer ou d'agréer des écoles à filière normale, qu'on puisse plus donner un accent particulier sur les écoles techniques et de formation professionnelle.
Voilà, on vous garde la ligne. Justin est à Béni, en Orkivu. Justin, bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonjour à mes équipes. Je suis Justin Fouziré. La semaine dans une école technique de Béni.
C'est quelle, vous avez qui est
ma contribution que j'aimerais donner, c'est le ministère de l'Éducation donne d'abord faveur aux écoles techniques, parce que vous allez constater avec moi que beaucoup, comme le système de Walika l'a dit, beaucoup d'écoles techniques n'ont pas des ateliers pour marier la théorie après à l'école à la pratique. Mais c'est pourquoi le ministère de l'Éducation donne d'abord faveur aux ateliers pour servir la formation.
Oui, mais vous êtes enseignant sur place à Béni, vous enseignez dans une école technique. Décrivez-nous comment vous travaillez, votre école, les filières et ce qui s'y passe, le laboratoire, les ateliers. Décrivez-nous un peu en quelques lignes, Justin.
Oui, merci. À Béni, nous avons plusieurs écoles techniques, mais le mal qui est là, nous allons dans une seule école technique, c'est l'UTICA, l'Institut Technique de Solutions de Cachabouvel. C'est cette école qui a plus des outils pour former les nouveaux élèves et techniciens. Mais dans d'autres écoles, on n'a pas vraiment les outils pour servir la formation de ces techniciens.
Voilà, merci Justin. Vous enseignez dans une école technique et il y a juste. Voilà.
Dans une école technique de Béni, l'Institut Yangambidé.
Voilà, l'Institut Yangambidé, ce que vous avez dit, je n'ai pas bien suivi, mais tout le monde se rend à l'Itika, qui est à Béni pour les pratiques professionnelles. Merci.
Oui, c'est ça, c'est une école catholique qui a vraiment beaucoup d'outils techniques pour servir la variation de la théorie à la pratique.
À la pratique. Merci beaucoup, Justin, de ce point de vue. Nous allons à l'issue en province orientale. Clément, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Clément, par rapport à la promotion de l'enseignement professionnel.
Bon, selon moi, ce que je pense, il faudra d'abord que le ministère s'attelle à équiper ces écoles-là, parce qu'aujourd'hui, ici sur place, à Isiro, il y a quand même quelques écoles techniques qui sont là, notamment l'ITAI, l'ITIPI, hein. Pour l'autre, pour la pratique professionnelle, il n'y a pas vraiment de matériel. Et les parents ne découvrent pas vraiment le bien fondé de cet enseignement-là. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu ce qu'on devrait faire.
Merci beaucoup, Clément, de ce point de vue. Benjamin Ariwara, Benjamin, vous gardez la ligne, je crois, Benjamin, déjà prêt. Benjamin, vous pouvez vous êtes sur les antennes déjà, bonjour.
Bonjour, bonjour Pierre.
Tous pensent qu'il faut vraiment renforcer l'enseignement. Dites-moi un peu à Ariwara, s'il arrive que vous puissiez avoir des écoles techniques sur place, ça peut avoir quel apport quand vous regardez la cité d'Ariwara et le besoin, ça peut avoir quel apport?
Ok, merci. Comme le précédent a parlé, c'est de Bill. Nous savons que dans notre pays, nous avons des écoles techniques qui marquent là où ils peuvent même faire cycle de laboratoire, là où ils peuvent faire leurs pratiques. Même nous avons des systèmes, donc des écoles techniques médicales qui marquent concret là où ils peuvent faire leurs stages, vraiment ça devient difficile. Ils se cherchent même des dispensaires ou des hôpitaux de leur choix pour aller faire même leurs stages. Ma préoccupation c'est plus les problèmes relatifs à l'ITEM. Mm-hmm. Je suis ressortissant de l'ITEM Boga depuis 1997. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas vu mon diplôme. Les diplômes n'existent presque pas. Nous ne comprenons pas comment les obtenir. Vraiment, nous sommes limités. Et même, j'étais obligé encore de présenter l'examen d'État en 2003. Et j'ai déjà mon diplôme, donc le diplôme d'État qu'on m'a déjà envoyé. Mais pour l'ITEM jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le ministre chargé de ce département, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser à fonction de ça, surtout livrer les diplômes aux lauréats qui avaient déjà présenté, quand même pendant beaucoup d'années, nous travaillons avec les attestations de réussite. Vraiment, ça n'a pas de valeur.
Merci. Merci, Benjamin. C'est par rapport à votre diplôme des sciences de santé. Vous avez terminé en 97 l'ITEM, mais depuis là, vous n'avez pas le diplôme. Et pourtant, le diplôme d'État que vous avez présenté, après, vous l'avez eu. Le ministre pourra nous orienter, hein, un peu plus tard, si tu concernes le diplôme qui des ITEM. C'est qu'il pourra nous dire. Merci beaucoup, Benjamin. Nous revenons à vous, monsieur le ministre. Nous avons ces quelques préoccupations des auditeurs auxquelles je vais ajouter aussi ce problème de manque des ISPT. Est-ce qu'il y a-t-il une corrélation entre ce que vous faites pour la promotion de l'enseignement professionnel et au niveau de l'enseignement ministère de l'enseignement supérieur et universitaire sur la création et la promotion aussi des ISPT, parce que cet enseignement technique ne peut pas être viable et être amélioré si d'un côté dans la ville on n'a pas aussi les instituts supérieurs pédagogiques techniques qui peuvent aider et former les gens qui doivent aller former dans ces écoles d'enseignement technique et professionnel.
Merci. Je commence par votre préoccupation en rapport avec les ISPT. Mm-hmm. Ce que je peux vous dire, que nous sommes en train de faire un travail avec l'enseignement supérieur par rapport aux ISPT. Et comme vous savez que ça demande des moyens, nous sommes vraiment en train d'y travailler pour que d'ici là, au moins dans chaque province, on ait des ISPT pour former le formateur de nos futurs techniciens. Par rapport aux préoccupations de Justin à Béni, M. Clément à la province orientale et M. Benjamin à Ouara, au sujet des ateliers, c'est vrai, nous devons tous reconnaître, nous Congolais, qu'on a fait des erreurs. Au départ, ces écoles-là ont été créées, ça existait et c'était équipé. Mais avec les pillages qui se sont situés dans notre pays, nous-mêmes nous avons détruit. Et aujourd'hui, après la destruction, nous-mêmes Congolais avons négligé ces sous-secteurs de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il a fallu qu'à la Troisième République, que le chef de l'État puisse songer à les valoriser. C'est pourquoi aujourd'hui, vous nous voyez encore en train de tourner nos regards vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et nous sommes en train d'équiper progressivement. Le Congo est grand. La première dame et le chef de l'État ont compris qu'il fallait absolument accompagner ce secteur-là. Ils se sont mis aussi, ils ont mis la main dans la pâte pour que nous puissions avoir suffisamment d'écoles techniques et de formations professionnelles à travers le pays. À Kinshasa, Bakongo, Équateur, pour la première phase, je crois que bientôt ce sera sur l'ensemble du pays, et on va progressivement équiper nos écoles avec des ateliers pour faire des pratiques. Je voudrais dire à M. Benjamin que les ITEM ne sont pas gérés par le ministère de l'FST, mais c'est plutôt géré par le ministère de la Santé, donc il appartient au ministère de la Santé de pouvoir éclairer par rapport au diplôme des instituts techniques médicales.
Voilà. Nous avons aussi Rajabou de Kindou qui est en ligne, et Jean Bosco qui nous appelle de Lubumbashi. Gardez la ligne, vous allez aussi donner votre point de vue par rapport au secteur de l'enseignement professionnel.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Rajabou, vous êtes à Kindou, dans la province de Maniema. Bonjour. Rajabou, vous êtes en ligne. Bonjour. il s'est registré sur sa ligne, ça, cela nous permet de, d'aller à Lubumbashi. Jean Bosco, vous êtes en ligne, je crois.
Oui, je suis là, Piero. Bonjour, Piero.
Bonjour, Jean Bosco, vous êtes à Lubumbashi au Katanga. Nous vous écoutons par rapport à l'état des lieux de l'enseignement professionnel dans votre milieu. Et ce que vous pensez qui puisse être fait, parce que d'ici là, c'est l'année scolaire 2011-2012 pour la promotion de cet enseignement. On vous écoute.
Merci pour la parole, Piero. Je suis vraiment content parce que ici chez nous, les enseignements professionnels évoluent bien. Ils évoluent bien parce que je sais compter trois ou quatre instituts professionnels qui évoluent bien. Hein. Ce que j'ai constaté, c'est que ce sont des écoles qui sont prises en charge par les catholiques. Je crois que si le ministère de l'EPC mettait aussi donnait aussi en aide à ces instituts-là, ils vont aussi beaucoup plus évoluer. Je peux citer la cité des jeunes ici qui forment des jeunes qui ont passé des grandes études primaires, mais qui sont en train de se débrouiller. Ils sont quand même très important pour la société. Je voulais aussi interpeller le ministère de l'EPC. Déjà, ce qu'il fait, c'est déjà beaucoup. Je vois le ministre Martin Mongo qui va de gauche à droite pour que l'enseignement puisse aller de l'avant. Mais je voulais aussi l'interpeller concernant les enfants à rupture familiale qui sont pris en charge ici au centre d'hébergement, au centre des cas d'enfants. Ce sont des enfants qui sont pris en charge pas bien par le gouvernement. Ils n'ont pas assez de moyens. Je voudrais que le ministère de l'EPC puisse aussi intervenir pour qu'ils soient bien pris en charge. Parce qu'ils sont en train d'être enseignés par-ci, par-là, d'une façon professionnelle. Et le ministère aussi intervient dans ce sens-là.
Merci. Merci Jean Bosco de Lubumbashi, vous avez lancé un SOS pour les enfants en rupture familiale qui sont encadrés au centre de Kassapa. Si le ministère peut venir en aide à ces centres pour renforcer leur encadrement. Malheureusement, Radia Boulikindo, on l'a perdu. Je reviens à vous, monsieur le ministre. Nous avons ce point de vue, cette question, c'est peut-être lancé par Jean Bosco, mais aussi, c'est une autre question que je vous pose, c'est par rapport aux besoins réels du milieu. Est-ce que dans la planification pour la création de ces écoles, on tient compte des besoins du milieu? Pour savoir, par exemple, on est dans une province forestière, si on peut y créer autant d'écoles d'agronomie, est-ce qu'on pense à tout ça, ou on se fait avec une école technique qui fonctionne dans un milieu où cette école forme des gens, mais qui ne sont pas à un moment, on peut dire, entre guillemets, utiles à cette communauté? Est-ce qu'au niveau du ministère, vous pensez à tout cela?
Oui, nous pensons à tout cela. Et je pense que la nouvelle qui nous a été présentée l'année passée, c'était juste pour nous aider à corriger ces déséquilibres-là et tenir compte des besoins réels de la contrée où on doit implanter telle ou telle autre section. Donc le ministère, avec l'annuaire, c'est un outil très, très, très nécessaire pour pouvoir corriger ces déséquilibres-là qu'on a connus depuis un certain temps. Dans l'annuaire, ça nous permet aujourd'hui de dire qu'à l'Équateur, par exemple, je prends la province de l'Équateur, où on trouve la forêt. Qui dit forêt, qui dit bois. Donc il faut trouver des sections pouvant aider à la transformation de ces bois et à la valorisation de ces bois sur place. C'est ce que la nouvelle nous aide aujourd'hui à faire. Par rapport à notre ami Jean Bosco, à qui je dis merci beaucoup pour le mot d'encouragement et de félicitations à l'endroit du ministère, et je peux rassurer Jean Bosco que ce qui se fait à Lubumbashi ou dans le Katanga est vraiment salué par le ministère. Plusieurs fois, le ministère a écrit au gouvernement pour le remercier et le féliciter pour son accompagnement. Nous félicitons et remercions également l'Église catholique de Lubumbashi pour ses interventions par rapport à la formation technique dans cette province-là. Alors, pour les enfants à rupture familiale, nous devons distinguer quelque chose, M. Jean Bosco. Dans notre pays, il y a deux types de formations professionnelles, formelles et non formelles. Nous, de l'EPSP, nous nous occupons de la formation formelle. Et d'autres ministères, comme les affaires sociales, le travail, donc ceux-là s'occupent du non formel. Alors, il reste à savoir, ces enfants-là qui sont en rupture familiale, sont dans quelle structure? Si ça dépend du ministère de des affaires sociales, je pense qu'il faudra vraiment s'adresser aux affaires sociales pour que les affaires sociales puissent davantage allouer de moyens à ces établissements qui reçoivent ces enfants pour bien prendre en charge ces enfants. Donc je pense qu'il y a cette distinction était vraiment nécessaire pour nous. Mm-hmm. Mais l'annuaire que nous avons aujourd'hui, je pense que dans les jours à venir, nous allons constater qu'il y aura équilibre des écoles techniques et la formation professionnelle à travers le pays.
Et monsieur le ministre, on a vu l'année passée, on a amorcé le programme de la gratuité, c'était d'abord pour les restes de provinces à part Kinshasa et Lubumbashi, première jusqu'en troisième. Je crois bien, comme c'était promis, qu'on pourra aller jusque au reste des classes, ce qui veut dire qu'il y aura en principe une augmentation d'élèves qui fréquentent l'école primaire. C'est là, ne va-t-il pas poser des problèmes au niveau de l'accès à l'école secondaire dans les milieux où on aura beaucoup d'écoles primaires qui vont avoir beaucoup d'enfants qui vont fréquenter, terminer, et si tous ne peuvent pas se déplacer pour aller là où on peut avoir une école secondaire, alors comment on peut parvenir aussi à créer cet équilibre entre ceux qui vont fréquenter l'école primaire parce que ça va être gratuit l'année prochaine si la décision est maintenue en tant que telle et le nombre d'écoles qu'ils peuvent fréquenter dans leur milieu. On va un peu que ce soit de secondaire général voire même des écoles techniques.
Oui, merci beaucoup mon ami. Je pense que si le gouvernement avait pris la décision de pouvoir opter pour la gratuité progressive dans notre système, nous savons tout simplement parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour assurer l'enseignement gratuit au niveau, à tous les niveaux fondamentaux. Nous avons opté pour la gratuité progressive. L'année passée, sur l'instruction du chef de l'État, nous avons débuté avec première année, deuxième année, troisième année primaire. Et pour votre information, cette année, nous ajoutons une année, c'est-à-dire que nous allons de première jusqu'à quatrième année primaire. Pourquoi? C'est juste pour répondre à votre préoccupation, à vos préoccupations, c'est-à-dire si on aura le moyen de pouvoir accompagner la gratuité de manière efficace et sur le terrain quant à l'accès des élèves à l'école secondaire. Donc nous sommes obligés d'aller progressivement, question pour le ministère, de réajuster aussi au niveau supérieur la capacité d'accueil pour accueillir les enfants qui sont déjà nombreux au niveau de première, deuxième, troisième, quatrième, mm-hmm. qui ont bénéficié de la gratuité pour le recevoir aussi au niveau supérieur avec beaucoup d'aisance. Donc nous y travaillons, raison pour laquelle nous allons progressivement, cette année on a encore ajouté une année, donc nous allons de première année jusqu'à quatrième année primaire. Mais il y a toujours une précision à donner. La ville de Kinshasa et la ville de Lubumbashi ne sont pas concernées encore par la gratuité. Pour la simple raison que ces deux villes-là présentent une particularité qui ne nous permettent pas encore d'autoriser la gratuité au niveau de l'enseignement fondamental. Mais nous savons aussi que déjà dans le Katanga, le gouvernement Moïse Katumbi, à qui je salue passant, fait des efforts pour nous soutenir aussi dans ce sens-là. Donc je crois que c'est ce que je peux vous répondre par rapport à la gratuité.
Nous avons Jean-Claude qui est à Mombasa et Gérard qui est à Arou. Nous sommes à vous, messieurs, pour commenter ensemble avec nous ce sujet autour du renforcement du sous-secteur de l'EPSP qui concerne l'enseignement professionnel. Appelez-nous 081-890-6315, je vous rappelle que nous avons invité en ligne pour vous, monsieur Arthur Asselé Ngamou Zabousseau, qui est le vice-ministre de l'EPSP chargé de l'enseignement professionnel. Jean-Claude, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Mombasa, on vous écoute Jean-Claude.
Je voudrais d'abord demander au ministre, on était un peu monsieur Maubis, vous lui rappelez que quand il parle de gratuité, avant que je pose le problème, je lui dis qu'en Touris, la gratuité n'a pas existé. Première, deuxième, troisième. Donc, quand tu viens vraiment à la radio, qu'il nous aide. On a dénoncé ça à la radio, on a écrit un peu le ministre, on a vu même les responsables, mais cette gratuité externe n'a pas été sanctionnée. Donc, vraiment, c'est vrai que, je ne pense que la question même tout ce qu'il nous dit là, si c'est vrai. Parce que tout ça à la radio, on essaie de promettre, c'est sincère. Après cela, je dois lui dire que l'état des écoles professionnelles, moi je trouve que c'est une copie vide. Ça existait à l'époque, avant la télévisionisation et avant les universités. Mais actuellement, qu'est-ce qu'il reste de cette école-là? Je dois lui dire que je dois lui demander de nous dire quel est le vrai programme. Combien d'argent et le budget qui est à la disposition, parce qu'il faut d'abord réhabiliter cela, il faut former même des professeurs parce qu'on en a plus, et surtout ne pas les confier au privé, les confier par exemple à l'église catholique. Bébé, qu'est-ce qui nous désintéresse là, quand ces écoles seront là? Est-ce que les conditions de travail, parce que quand quelqu'un il étudie pour étudier, il étudie pour travailler, mais est-ce que les conditions de travail dans notre pays, les tracasseries font que pratiquement, les gens n'ont même pas ce goût-là d'aller faire les écoles professionnelles parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Je vais terminer par vous donner un exemple. Moi, à l'époque, quand j'ai étudié, par exemple, l'Ouganda prenait la bière fournisse du Congo. Mais c'est actuellement nous qui prenons la bière, l'Aïman, ce qui vient de l'Ouganda. Ces idées ne peuvent pas s'installer parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc, je demande au ministre de nous dire, de nous donner clairement comment il compte vraiment réhabiliter ces écoles, avec quel budget, avec une formation professionnelle également. Je vous remercie.
Merci, Jean-Claude. Mais vous avez avant évoqué ce que nous avions déjà parlé, même avec le ministre Macaire, dans cette émission autour de l'effectivité de la gratuité à Bounia, en Ituri. Cela a été évoqué plusieurs fois par les auditeurs lors des émissions passées. Vous posez aussi la même question à M. Arthur Cédéa, de savoir ce qui s'est passé au niveau du Ituri. L'effectivité n'a pas été remarquée. Et vous êtes appelé plus sur les budgets que le ministère dispose pour réussir la réhabilitation de ce secteur de l'enseignement professionnel. Merci beaucoup, Jean-Claude de Mombasa. À Arou, en province orientale, Gérard, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur de la radio Capis.
C'est Piro et la musique est au micro. On vous écoute, Gérard.
Oui, c'est moi, Gérard. À Arou, juste, nous avons aussi un problème très sérieux au niveau au niveau des institutions techniques, de telles que la mécanique générale à Arou.
Oui, allez-y, Gérard, on vous écoute.
Oui, alors nous avons des problèmes très importants sur ce qui concerne les documents. Les documents techniques sont en tout cas très rares à notre niveau ici.
Vous avez une école technique à Roux, oui. La mécanique générale, vous avez dit, mais malheureusement, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de manuels, n'est-ce pas, pour permettre aux
élèves de manuels, des manuels techniques appropriés, mais sont presque rares, sont très rares. Et puis, de deux, nous avons encore, c'est comme si, au niveau des institutions techniques, nous avons des problèmes de programmes nationaux, de nouveaux programmes. Et comme, alors, je ne sais pas si la faute pourrait revenir peut-être au chef des entreprises ou bien la faute revient peut-être au ministère de l'enseignement, je ne sais pas.
Alors, vous avez un problème aussi des programmes de l'enseignement. Merci beaucoup, Gérard, pour ces préoccupations que le ministre pourra commenter tout à l'heure là. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Comme je le disais, appelez-nous au 081-890-6315 pour faire votre point de vue sur la promotion de l'enseignement professionnel.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Nous revenons à vous, monsieur le ministre. Vous avez suivi Jean-Claude de Mombasa, il s'est inquiété. D'ailleurs, le problème de l'effectivité de la gratuité en Ituri, on en a évoqué plusieurs fois dans cette émission par les auditeurs, des fois avec le ministre Makir Mangou Famba, qui a promis aux auditeurs qu'il pourra regarder ce qui se passe en Ituri. Ça n'a pas été vraiment le sujet principal du jour, mais parce que ça a été évoqué, il y a ce auditeur qui s'inquiète pour savoir que les gens n'ont pas été punis, ils ont écrit, on en a parlé, mais bon, ils n'ont pas expérimenté vraiment l'effectivité de la gratuité. Mais il se pose un problème de ressources financières nécessaires pour la réussite de ce vaste programme de la promotion de l'enseignement technique, le budget pour la création des écoles, leur faire vivre acheter le matériel, les laboratoires, tout cela. Ça a été posé par Jean-Claude de Mombasa. C'est la même inquiétude de Gérard aussi, hein, par rapport au manuel et surtout le programme.
Oui, je demande à M. Jean-Claude de vraiment laisser calmer parce qu'il a été violent tout à l'heure là. À Itour, il y a eu des problèmes, je crois que par rapport à l'application de la gratuité, je crois que c'est un problème qu'on peut régler. Mais nous, au niveau du ministère, ministre Master Mwangu Famba et moi-même Cédé Azabousou, nous ne sommes pas des magiciens pour nous retrouver partout au même moment et résoudre les problèmes à tous les niveaux au même moment. Nous avons des structures. Nous referons ces structures-là pour nous faire rapport et assurer, respecter les instructions que nous donnons au niveau du ministère sur le terrain. Mmh. Si ça n'a pas été étudié, c'est un nouveau problème posé. Nous allons demander au prophète d'initier des enquêtes maintenant pour que nous puissions connaître la réalité des problèmes qui se passent à l'Itourie. Et aussi, qu'ils soient rassurés que cette année, s'il y a une colle, que lui a ciblé, qui n'avait pas de gratuité, nous lui demanderons de signaler cette école-là et nous prendrons des décisions qui s'imposent. L'état des écoles techniques aujourd'hui, je l'ai dit, nous avons hérité de plusieurs écoles techniques et de formations professionnelles de la colonisation. Nous-mêmes, nous avons détruit ces écoles-là avec le pillage. Nous-mêmes avons négligé ces écoles-là parce qu'on avait trouvé que c'était pour les moins intelligents, les moins nantis. Or, c'était une grave erreur des Congolais. S'il vous plaît, le Congo a 51 ans aujourd'hui d'indépendance. Mais c'est à peine 4 ans que le chef de l'État a pris les choses en main par rapport à la formation technique et professionnelle. Donc, le gouvernement et toutes les personnes de bonne volonté, entre autres le chef de l'État lui-même personnellement, ainsi que la première dame, se donnent pour nous aider à réhabiliter et à équiper les écoles techniques et de formation professionnelle. Nous avons des partenaires comme la CPB et autres qui nous accompagnent dans ce programme-là, qui nous aident à réhabiliter et à équiper les écoles. Chers amis, ne nous demandez pas à corriger une erreur qui date de plusieurs années en une seule année. Ce ne sera pas possible. Nous sommes obligés d'aller progressivement et nous savons que nous allons finir par réhabiliter et équiper nos écoles techniques sur l'ensemble du territoire national. Par rapport au programme, je pense que le ministère a eu à expliquer et a donné beaucoup d'explications par rapport à ça. Nous avons aujourd'hui notre site qui est opérationnel et sur le site nous avons tous les programmes nécessaires. Le ministère ne s'est pas arrêté là. Il a mis à la disposition de tous les élus nationaux des sites et contenant tous les programmes pour nous aider davantage à toucher les coins les plus reculés de la République. Donc nous pensons que de ce côté-là, quand bien même que nous n'avons pas eu les ressources nécessaires pour remettre tout le programme, ainsi que les manuels, parce que nous avons estimé ça à plus de 6 milliards de dollars. Mais avec le moyen de bord, nous avons essayé par des moyens électroniques de remettre le programme à disposition de nos écoles via nos élus ainsi que notre site internet. Donc je demande aux amis que nous puissions aller progressivement. À grande vitesse, on n'a pas ce moyen-là, donc nous devons aller au rythme de ressources à notre disposition.
Oui, mais vous avez évoqué les personnes de bonne volonté, vous avez parlé des partenaires, vous avez parlé le chef de l'État en tant que chef de l'État, mais individuellement, vous avez parlé de la première dame, tout ce qui conjugue les efforts. Mais conjuguer les efforts, créer des écoles, c'est une paire de manches. Est-ce que les personnes qui vous aident de bonne volonté à créer les écoles techniques, ces personnes vont-elles disponibiliser les moyens pour faire vivre ces écoles? Si la première dame aujourd'hui crée une école, par exemple, dans une telle localité, voudra-t-elle donner l'argent tous les jours pour que l'école fonctionne? Ou comment au niveau du ministère, cela peut être géré? La bonne volonté, c'est mieux, mais la suite après cette bonne volonté, monsieur le ministre.
Écoutez, ce qui est vrai, et lorsque vous recevez la charité de quelqu'un, vous ne devez pas vous contacter directement de cette charité-là pour continuer votre vie. Donc le ministère est organisé aujourd'hui,
de prendre en charge la continuité de l'action que déposent nos partenaires, le chef de l'État, la première dame, ainsi que d'autres partenaires qui nous accompagnent dans la création et l'équipement de l'école technique et de formation professionnelle. Donc, l'expérience du passé nous inspire aujourd'hui à bien gérer les choses dans les jours à venir. Et c'est ici que l'affaire, ça ne concerne pas seulement le gouvernement, mais c'est l'affaire de tous les Congolais. Un bien public doit être respecté. Une école, c'est un bien public, un bien de la communauté. On ne doit pas piller ça. On ne doit pas accepter que les équipements mis à la disposition des élèves puissent quitter l'école pour aller dans des ateliers privés. La population doit aussi nous aider en dénonçant ceux qui le font pour que nous puissions prendre des sanctions appropriées par rapport à ce type de comportement.
Et donc, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. Et donc, vous êtes en ligne, bonjour.
Et donc, je suis à la zone.
Vous êtes en
la commune de Kinshasa, en Gaïana.
Est-ce qu'on appelle communément Binza aux zones, c'est ça?
Oui, correct, merci beaucoup.
On vous
je remercie le ministre pour son intervention en faveur de nos enfants dans l'enseignement professionnel. Je remercie aussi les deux ministres qui assument les responsabilités dans ce département. Nous voyons que depuis l'avènement de la Troisième République, le ministère de l'EPST a pris un essor considérable parmi les autres ministères de notre gouvernement. Nous les remercions sincèrement. J'ai une petite préoccupation, vous en avez deux. La première, je pose la question au ministre qui intervient en ce moment sur votre plateau. Est-ce que dans son fief électoral, y a-t-il des écoles professionnelles et quelle est l'ampleur de leurs acquisitions en faveur de ces écoles? Ça, c'est la première. La deuxième question, c'est que le ministère de l'Éducation, c'est un grand ministère. Ne serait-il pas possible qu'un jour, on puisse éclater ou s'étendre à des ministères différents? Ce sont les questions que je pose au ministre pour le moment. Merci.
Merci, Enoch. La première question est personnelle hein, au ministre. Dans son fief électoral, y a-t-il une école technique professionnelle? Elle est dans quel état? Et vous voudriez savoir si un jour on peut scinder ce ministère. Il est tellement grand pour vous, vous pensez qu'on peut le scinder en deux. Merci. Enoch, nous allons à Karanga, au Cas Occidental. Daniel, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Et salut aussi les auditeurs de la radio Capi. Oui, j'apprécie beaucoup l'idée du gouvernement pour promouvoir les écoles techniques professionnelles. Moi, je vous parle ici, je suis professeur dans une institution de technique ici à Karanga, ici PK. Mais il se pose un problème auquel le gouvernement devait résoudre aussi. C'est comme dans les années 2007. L'école EPRO a été équipée par la coopération technique belge, avec des machines outils pour former les enfants dans la fabrication des pièces. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas des enseignants qualifiés pour pouvoir enseigner ces machines-là aux enfants. Ces machines sont en train maintenant d'être, je dirais, ça prend des rouilles parce que ça ne tourne pas. Il y a un deuxième problème qui est lié aux équipements. Le problème qui a été soulevé, oui, c'est un problème réel. Dans d'autres écoles, il n'y a pas d'équipements ici à Kananga. Et on doit aussi penser à la révision de aménagement du programme également. Il y a, je disais, manque des enseignants qualifiés dans des écoles techniques, pose problème. Et puis, il y a aussi un autre problème de salaire. Parce qu'un technicien qui a terminé dans une école technique, puis il est qualifié, il est appelé à travailler dans des institutions où on paye bien. Et quand est-ce qu'il va penser à aller enseigner dans des écoles aussi longtemps que là-bas, on nous réserve 40 000 francs par rapport à d'autres salaires que les institutions présentes. Donc c'est un sérieux problème que le gouvernement doit penser. Un technicien, on ne le minimise pas. Il faudrait bien l'encadrer aussi pour qu'il donne aussi la matière
aux autres.
Merci.
Il y a aussi un problème là. Il y a un autre problème lié à la convention que l'État s'est assignée avec les églises, qui aujourd'hui pose problème. Le problème lié, il y a les églises ou la coordination des églises qui malmènent les enseignants techniciens à cause de leur appartenance religieuse.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, si vous n'êtes pas, soit par exemple, si vous n'êtes pas catholique, on va te malmener, écrire des lettres de révocation pour t'obliger de partir. Alors, à ce moment-là, si moi je pars, il y a une perte d'un enseignant qui est parti.
Mm-hmm.
Voilà un peu.
Merci,
Daniel. Moi, j'avais comme préoccupation, je vous remercie, Pierrot.
Merci, Daniel. Nous allons lire aussi deux messages qui permettent au ministre de répondre avant le flash d'information. L'émission de mercredi en deux parties. Après, nous allons revenir pour la deuxième partie, la conclusion. Il y a Bwana Masala, informaticien à l'Université des Kamina au Katanga, qui dit ceci. Pour élever le niveau de formation technique et professionnelle, il faut que les écoles techniques soient créées en nombre suffisant, y affecter du personnel qualifié et y mettre des matériels d'apprentissage. Un enseignement technique ou professionnel sans outils de pratique est vain. On ne peut apprendre à quelqu'un à démonter un moteur ou à utiliser quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il y a aussi Jean-Paul Imani Malajiwa qui nous écrit des Calémies. La situation des écoles techniques professionnelles n'est pas bonne. Nous avons ici chez nous l'Institut technique Lougouille des Calémies qui produisait avant 1994 des bons fruits irréprochables. Je me souviens quand je faisais mes études primaires à Bujumbura, les techniciens qui terminaient à Lubouye avaient une valeur compte tenu de leur formation et information, et la plupart étaient engagés. Mais actuellement, il n'y a plus des ateliers pour les nouveaux techniciens, pour la pratique. Il y a quelques ateliers qui existent, non pas de matériel. Voir le résultat actuel aux examens d'État, c'est catastrophique. Des réussites sur 100. Des fois, il n'y a même pas de réussite. Il serait mieux que le gouvernement puisse équiper cette institution qui faisait la fierté, était parmi les meilleurs du Grand Lac. Nous revenons à vous, monsieur le ministre. On vous donne la parole dans 4 minutes pour répondre à ces auditeurs. Et nous allons vous garder pour suivre ensemble les flashs d'informations dans 2 minutes et on reviendra pour conclure cette émission. Nous avons eu un autre de Kinshasa. Nous avons Daniel de Kananga et c'est quelques messages que nous avons lus.
Merci beaucoup. Je commence par Enoch. La première question, Enoch, est de savoir dans mon fief électoral, est-ce qu'il y a-t-il des écoles techniques? Je suis tenté de soupçonner que lui ne m'aide là, je crois bien. Mais je pense que sur place, dans mon fief électoral, il y a des écoles techniques et de formation professionnelle, soit à Karawa, à Gosasa, à Musinga, à Linela Bongabo, pour ne citer que celle-là.
Mm-hmm.
Par rapport au grand travail, c'est vrai, merci beaucoup, M. le directeur, et donc, pour le mot d'encouragement au ministre Macaire et moi-même, c'est vrai, on ne sait pas tout faire, mais le peu que nous mettons à votre disposition, quand vous nous soutenez comme ça, ça nous conforte et nous encourage à faire davantage. Pour écarter le ministère, il n'appartient ni au ministre Macaire, ni au vice-ministre CDA de pouvoir éclater le ministère. Il y a des décideurs pour ça, donc votre suggestion est suivie par tout le monde, donc espérons peut-être dans les tout prochains jours, cela peut être fait. Donc du moment où le chef de l'État avait déjà commencé par la nomination d'un vice-ministre en charge de l'enseignement professionnel. Notre ami Daniel Akananga a parlé d'une école équipée mais qui n'a pas d'enseignants qualifiés. Pour moi, c'est dommage. C'est parmi les problèmes que nous sommes en train de discuter avec le ministre de l'Enseignement supérieur, son excellence le ministre Machako. Et nous voulons que dans les années qui suivent ici, nous ayons des ISPT dans toutes nos provinces pour corriger cet état des choses-là. Et il n'y a pas d'équipement, c'est vrai, j'ai répété, que nous allons progressivement avec nos partenaires, et j'ai cité tous ces partenaires-là, et surtout l'intervention personnelle du couple présidentiel. Le réaménagement des programmes, depuis que nous sommes là, on a revisité à plusieurs reprises nos programmes pour les adapter aux besoins et aux réalités du moment. Donc notre ami vous a pensé déjà une porte à peu ouverte, donc le programme est déjà revisé. Au niveau de l'école, il faut bien payer les enseignants. Le gouvernement fait sa part. Mais en ce qui concerne les écoles techniques, quand nous avons pris nos fonctions, nous avons demandé à tous les chefs d'établissement de faire en sorte que leurs écoles techniques soient des établissements de production. C'est-à-dire, une école technique doit en principe produire. Les travaux pratiques que font les enfants. Il y a des écoles où on a des ateliers d'entretien de véhicules. Il appartient au sein de l'établissement, avec le comité de gestion de l'école, de pouvoir dégager des ressources pour renforcer un peu ce que le gouvernement fait en ce qui concerne le salaire par les primes. Donc, on avait donné des instructions dans ce sens-là. L'État signe avec les églises. Certaines coordinations mélangent les enseignants pour leur appartenance religieuse. C'est vraiment dommage. C'est que cela n'a rien compris de l'évolution de ces pays. La précision que j'apporte ici, c'est quoi? Les enseignants qui utilisent les associations, les églises et autres, sont les enseignants de l'État, mis à leur disposition pour usage. Lorsqu'un enseignant est affecté dans une communauté ou église, il n'appartient pas à cet enseignant-là de changer sa confession religieuse. Non. Ou bien l'église a besoin des compétences, ou bien l'église n'a pas besoin des compétences, alors nous tirons toutes les conséquences. Donc, je déplore ce comportement et nous le regrettons. Pour notre ami Gouana, je crois bien que j'ai bien prononcé,
oui, bon,
il nous a prodigué des conseils,
oui.
Nous lui disons merci. Jean-Paul également Calémy a parlé de la situation de son école de niveau ABC. Hier, c'était une grande école. Aujourd'hui, le résultat qu'on présente n'est pas bon du tout. Je pense qu'il faudra qu'au niveau interne, on y travaille aussi.
Voilà.
Ils ont les programmes, ils ont les nécessaires, qui permettent maintenant d'avoir des enseignants qualifiés et bien travailler pour donner des bons résultats à l'examen d'État.
Voilà, on vous garde en ligne, monsieur le ministre, ensemble.
Radio Okapi Unis le Congo, avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, dans le Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 2h, et mercredi de 10h, dans le Kinshasa.
C'est mercredi, les thèmes, les sujets du jour, hein, c'est la promotion de l'enseignement professionnel. Nous sommes ensemble avec Monsieur Arthur Sédé Angamou Zabousso, qui est le vice-ministre de l'EPSP chargé de l'enseignement professionnel. Monsieur le ministre est avec nous sur les antennes. Voilà, le temps que la réalisation puisse retrouver le vice-ministre, on va continuer avec les auditeurs qui sont là parce que c'est la dernière partie de l'émission. Dismas nous appelle Bidui au Nord Kivu, vous êtes en ligne. Dismas, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Dismas, oui. Idui, c'est aussi qui vous. Voilà, Idui, c'est aussi qui vous. Bien, oui, merci.
Voilà.
Oui, on vous écoute. Merci pour la précision, oui.
Oui, je voudrais réellement encourager ces thèmes parce que ici même, dans la subdivision 18, il n'y a aucune école professionnelle, tandis que la subdivision.
Mm-hmm.
Tous les élèves maintenant font des écoles primaires et secondaires, c'est comme si ils étaient à vouloir vraiment terminer ces écoles, et pourtant, certains devraient faire l'école professionnelle. Aussi, je voudrais demander maintenant à l'invité. Quand il parle de la gratuité, ici chez nous, il joue vraiment comme para quand on écoute tout ce qu'il dit, ça veut dire vraiment. Sinon, il n'y a pas eu cette gratuité quand il parle. Ici, la prime l'année passée se trouvait à 4 dollars le trimestre. Depuis qu'on a proclamé la gratuité, c'est passé maintenant de 4 dollars à 6 dollars. Donc, c'est comme s'il a dit aux enseignants de refaire la prime.
Mm-hmm.
Donc, moi, je dis là, pour me résumer, c'est ce qui consiste à penser à promouvoir les écoles professionnelles, c'est une bonne idée.
Merci, merci. Dismas, vous êtes à Idui au sud qui vous avez dit que là où vous êtes à Idui, malheureusement, tous les enfants qui terminent l'école primaire sont obligés de faire les secondaires générales. Il n'y a pas d'école technique, tous sont obligés vraiment de suivre une seule voie. Mais vous avez aussi présenté des inquiétudes par rapport à la gratuité à Idui. Vous avez dit, quand on a proclamé la gratuité, la prise en charge est allée des $4 à $6 par trimestre, et ça n'a pas été effectif, hein, la prise en charge, quoi, la gratuité, là où vous êtes. Cyclique et Arsène est en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Thiroux.
On est content d'être avec vous sur les antennes, et puis on vous écoute.
Ok, merci. Bon, moi, j'irai plus vers les propositions. Mon collègue de Kananga, je crois qu'il a bien expliqué la situation.
Oui.
Le problème de l'enseignement technique, c'est même la base de notre développement. C'est vraiment la base. C'est très sensible. J'irai même à demander, j'irai même sur les émissions dialogue entre Congolais, j'irai une émission comme ça. J'irai une conférence même, une conférence sur ce point-là. Regardez dans nos ancêtres, le roi, à côté du roi, la première case, c'était la case du forgeron. Parce que tous ceux qui venaient, les agriculteurs, les guerriers, tout ce monde-là qui demandait quelque chose au roi, en tout cas, le roi demandait au forgeron. L'enseignement technique est par terre. Pourtant, c'est la base, c'est la solution de notre développement. Les gens se compliquent dans plusieurs histoires. Nous construisons des barrages, nous construisons ceci, nous inondions. Mais les techniciens qui ont été formés ici sont capables de le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont négligés, ils sont mis à côté. On les paye surtout les enseignants. Moi, j'ai été ancien instructeur en machine outil. C'est malheureux, j'ai quitté ce métier-là. Je le regrette. Monsieur le ministre, ou le monsieur le vice-ministre, pour convoquer même une conférence, nous trouverons la solution pour le développement de ce pays par
merci.
Les machines, les outils. Nous allons travailler. C'est ça mon intervention aujourd'hui.
Merci Arsène. Vous pensez qu'il faut aller au-delà même, hein? C'est vraiment un grand forum qui doit être consacré et à l'enseignement technique qui est la base du développement. Nous terminons cette émission avec les derniers auditeurs, c'est Kassamba qui est à Bounia. Bonjour Kassamba.
Oui, moi, vous voyez, à un certain moment, le Congolais est atteint d'une maladie de l'homme universitaire, alors que le pays, il doit beaucoup de pays que la technologie qu'on développe, la technique des hommes qui doivent être directement sur le terrain. Normalement, à nos universités, forment des chercheurs. Je me rappelle, avec les années 60, sur l'administration du territoire, on avait organisé l'enseignement à l'ENA, qu'on appelait à l'époque l'École nationale des droits et de l'administration. Alors, ça avait sorti tous les administrateurs qui avaient remplacé, qui avaient fait le guide, qui avaient remplacé les plans qui étaient partis, c'était sorti de l'ENA de l'époque. Donc, l'enseignement, c'est qu'il faut comprendre que c'est basé beaucoup sur l'enseignement technique, l'enseignement pratique, l'enseignement qui est directement consommable sur le terrain.
Merci beaucoup Kassamba. Oui, merci Kassamba. On vous a suivi. La qualité semblait s'est détériorée vers la fin de votre intervention, mais vous avez insisté pour dire qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont frappés de la maladie des diplômes universitaires qui nous forment des chercheurs. Mais il faut plus renforcer l'enseignement technique. C'est comme Arsène l'a dit, il pensait lui-même qu'il faudrait qu'on puisse même avoir un forum national consacré au redressement de cet enseignement. Et Dismas Bidu qui a présenté son inquiétude aussi par rapport à la gratuité dans le site. Qui vont revenir à vous, monsieur Arthur Cédéa, parce qu'on va terminer cette émission dans 3 minutes hein, pour vous permettre de commenter ces propos des auditeurs et aussi conclure cette émission sur la promotion de l'enseignement professionnel.
Je pense que nous avons eu plus de suggestions que de préoccupations par rapport à la gratuité. Je pense que nous allons encore redoubler d'efforts au niveau du ministère pour le contrôle sur le terrain, de manière que la gratuité soit effective sur le terrain, tel qu'a demandé le chef de l'État. Oui, ou ailleurs, nous ferons un effort pour suivre et voir que réellement sur le terrain ça s'applique correctement. Je remercie beaucoup M. Arsène et M. Kassamba pour leur soutien également. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université, non. À l'université, oui, nous aurons des concepteurs, mais qui vont être équipés sur le terrain. Donc on a besoin des hommes de terrain pour appliquer ce que l'universitaire est en train de concevoir. Donc il est vraiment impérieux que nous puissions tenir compte des observations de Kassamba et de M. Arsène pour que nous puissions redonner encore un souffle nouveau à nos conseillements techniques. C'est vrai, dans le passé, on a eu des techniciens. Vraiment, moi-même, j'ai vu ça sur le terrain, par exemple, à la SNEL, où quand j'étais à l'énergie, je voyais comment est-ce que les techniciens formés par nous, Congolais, s'organisaient pour maintenir notre barrage Linga. Je les salue pour ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, pourquoi on a ces difficultés-là? Nous devons tous remonter la pente ensemble, et la proposition de convocation d'une conférence sera analysée entre le ministre et moi, et nous pourrons répondre positivement à cette préoccupation. D'ailleurs, on avait déjà commencé avec l'AFEC, la Fédération des entreprises du Congo. Mm-hmm. Nous les avons associés dans la réhabilitation de nos programmes parce que ce sont eux qui utilisent nos produits. Donc, nous étions dans l'obligation de nous mettre ensemble, de discuter, de réajuster les programmes pour répondre à leurs préoccupations. Mm-hmm. Pour terminer, j'ai dit la gratuité pour cette année, c'est pour la classe de première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. La ville de Kinshasa et de Lubumbashi ne sont pas concernées par la gratuité. Nous avons opté pour la gratuité progressive compte tenu des ressources disponibles dans notre pays. Mm-hmm. Nous avons au départ parlé de l'annuaire. Chers amis, chers auditeurs, cet annuaire-là était vraiment un outil indispensable pour le ministère. Et nous avons demandé à tous ceux qui veulent intervenir, notamment le partenaire, qui veulent appuyer nos structures de formation, qui est eux qui disposent désormais d'une base de données fiables, issues de paramètres objectivement observables, qui font partie intégrante du développement rationnel de notre système éducatif.
Merci.
Et aussi à ceux qui concernent les autorités administratives. Et ils ont été instruits et désormais solliciter la création de nouvelles écoles techniques et professionnelles que dans la mesure où celles-ci cadrent avec le besoin clairement défini par les économies locales telles que contenues dans notre annuel et nous voulons assez que les déséquilibres soient corrigés dans tout notre pays. Donc je remercie tous les auditeurs, tous les intervenants, leurs observations seront prises en compte pour que nous puissions réajuster notre comportement sur le terrain.
Merci beaucoup, monsieur Arthur Ngamou. J'ai rappelé à nos auditeurs que vous êtes le vice-ministre de l'EPSP chargé de l'enseignement professionnel. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, ceux qui en avaient la volonté, qui n'ont pas eu l'occasion. Nous vous disons tous merci. Au revoir.
Allô? 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 Tu ne réponds pas?
On se retrouve demain, jeudi 14 juillet à 11h30. Nous allons parler du secteur agricole. Plus près de deux ans sont passés depuis que le gouvernement congolais a distribué des tracteurs aux provinces pour la modernisation de l'agriculture. À ce jour, nous allons faire le point avec vous, fidèles auditeurs de Radio Capi. Quelle est la situation de la production agricole dans votre milieu après la distribution des tracteurs? Soyez nombreux à vous inscrire à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à Christine Poutou qui m'a aidé à réaliser cette émission mise en monde par Jean-Noël Mokondo, Nicole Ndaka, la supervisée du Royaume-Uni. Je vous dis merci. Au revoir.